Philippe Martinez est notre invité ce midi. Monsieur Martinez, depuis jeudi et l'utilisation du 49.3, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Certains rassemblements ont été marqués par des violences, c'était le cas à Bordeaux, à Paris ou encore à Brest. Est-ce que vous condamnez ces violences ?
On a toujours condamné les violences en marge des manifestations, parce qu'il faut bien préciser que l'intersyndicale avait appelé à des manifestations, des rassemblements tout le week-end. Et il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Et la très grande majorité se sont passées dans le calme, avec détermination, mais dans le calme. Et à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, y compris pendant les deux mois où l'intersyndicale a appelé régulièrement, on a toujours dit que ces violences étaient en marge des manifestations et que ça n'avait rien à voir avec le mouvement syndical.
Est-ce que vous vous sentez débordé tout de même en partie ?
Pas du tout, non, pas du tout. C'est à chaque fois, il y a des choses qui se passent en marge des manifestations. Alors là, c'est évidemment peut-être plus important, mais je le répète, c'est dans quelques villes. Et moi, je crois que vous l'avez montré sur vos antennes, il y a eu des tas de manifestations. Moi, j'étais à Meaux hier matin, 600 personnes un samedi matin qui manifestent dans les rues. Il y avait 4 manifestations en Seine-et-Marne, mais je sais que dans l'Aveyron, il y avait 5 manifestations. D'ailleurs, vous n'avez pas fait d'image.
Parce qu'on ne peut pas tout montrer partout.
Vous ne pouvez pas tout montrer, mais c'est des manifestations avec détermination, colère. Oui, colère, mais sans... voir ce qu'on a pu voir dans d'autres villes.
Simplement, M. Martinez, quand vous aviez dit au gouvernement « on vous aura prévenu s'il y a des violences, des débordements », est-ce qu'au fond, vous n'avez pas, non pas préparé le terrain, mais peut-être déculpabilisé un certain nombre de personnes qui pourraient se dire « maintenant, de toute façon, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure avec ce type de scène que l'on peut voir ».
Premièrement, on l'a écrit, vous l'avez lu.
Absolument.
On l'a écrit au président de la République.
Ah ouais. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises.
Mais on l'a d'abord écrit, tous les syndicats. Quand on a écrit au président de la République pour qu'il nous reçoive, on a pris un ton solennel. Ça n'a pas été pris de la part du président de la République avec sérieux. Voilà. C'était juste une alerte. Voilà.
Mais c'était une alerte par rapport à vos informations ? Ou est-ce que, comme vous le demande Benjamin, ça n'a pas contribué pour certains à se sentir un peu décomplexé, à dire « bon, vas-y, maintenant, on va tout casser ».
Mais vous savez, quand on a les pieds sur terre, et donc quand on va dans les manifestations, on écoute les gens. Et les gens nous disent « mais... On a été des millions dans les rues à plusieurs reprises, à huit reprises. Il y a des grèves. Les gens disent qu'est-ce qu'il faut faire de plus ?
Mais il y a deux types de violences, Monsieur Martinez. C'est-à-dire il y a celle qui peut être le fait de ceux qui n'en peuvent plus. Il y a celle dont vous êtes vous-même victime, parfois en marge des cortèges. Il y a une forme de radicalisation aussi.
Oui, mais ça a toujours. Enfin, ça fait un petit moment que ça existe, pas remonté, mais moi j'ai vu ça en 2016. Donc c'est. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a, je ne comprends pas que le gouvernement et surtout le président de la République ne prennent pas au sérieux nos alertes. Voilà, c'est tout. On est là pour alerter, pour dire le mécontentement il est profond, le refus, tout le monde le reconnaît maintenant, le refus de cette loi il est ultra majoritaire et on a un président de la République parce que maintenant c'est lui qui continue à avancer avec. Alors il change souvent d'argument parce que depuis deux mois maintenant c'est. C'est un problème économique, on risque la crise financière, etc.
C'est rappelé par Bruno Le Maire ce matin dans la presse.
Oui, mais rappelez-vous qu'au début, c'était une réforme de justice sociale. Vous voyez, les gens, ils ne comprennent plus rien. Enfin, je pense qu'ils ont bien compris que cette réforme, elle est injuste, elle est brutale, elle est autoritaire. Voilà, on a joué notre rôle d'alerte.
La préfecture de police de Paris a interdit les rassemblements sur la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées à Paris, justement pour éviter les violences. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez ?
Non. Il faut que les manifestations puissent, et l'expression de la colère puisse continuer à s'exprimer. Est-ce qu'ils vont interdire les manifestations jeudi prochain, par exemple ? C'est un vrai sujet.
Vous savez pourquoi ils interdisent, hein ? Parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a eu des incendies sur notamment l'obélisque qui est en travaux.
On ne peut pas interdire aux gens de manifester.
C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui s'est passé jeudi soir, vendredi soir, avec des manifestants qui prennent à partie forces de l'ordre, qui font des incendies sur des lieux de travaux, vous vous dites, il n'y a pas de problème, on continue, on autorise.
Mais les manifestations, y compris celles de jeudi, elles ont été autorisées.
Il y a eu un recours devant le tribunal administratif parce qu'elles avaient été interdites.
Ouais. Et c'est normal qu'on autorise les gens à manifester. Mmh. Et c'était une demande syndicale. Partout, c'est des demandes syndicales de manifester, de se rassembler, d'exprimer sa colère. On ne peut pas interdire de manifester. Après, je reviens pas sur ce que je vous ai dit avant. Il y a évidemment à éviter et à ce qu'il n'y ait pas de choses qui ne correspondent pas forcément à la détermination qu'ont des millions et des, de Français et de Françaises, de citoyens de ce pays, de dire cette réforme, on n'en veut pas. Il faut aussi que le gouvernement et le président de la République assument ses responsabilités. On ne peut pas renvoyer à chaque fois les problèmes sur ceux qui manifestent. Il faut aussi que
le président... Donc c'est de sa responsabilité s'il y a des violences.
Mais c'est de sa responsabilité si la colère, elle est à ce niveau-là.
Voilà. Et de ceux qui commettent ces violences, accessoirement.
Ben ça, y a des débordements, forcément.
Il y a eu des élus qui ont été pris à partie, alors pas directement, mais il y a eu des permanences vandalisées, des coupures d'électricité dans des villes, notamment celle d'Annonay, d'où est originaire le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Est-ce que ces actions-là, vous les condamnez ?
Les violences physiques, on les condamne, évidemment. Après, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Il y a eu une petite coupure chez la permanence.
Bruno Retailleau ?
Ouais. Donc les camarades ont
la
dit,
semaine dernière.
Les camarades ont dit, c'est bien que Bruno Retailleau puisse savoir ce que c'est que la sobriété énergétique, comme le vivent.
À la veille du vote, est-ce que c'était pas lui mettre la
comme place. Le vivent des millions de Français. Malheureusement, il y a des millions de foyers en France qui n'ont pas ont le choix entre allumer la lumière et manger chaud, qui ne peuvent pas utiliser l'électricité parce qu'ils sont limités en termes de consommation. C'est bien que les élus du peuple se rendent compte de temps en temps. Dans quelle situation sont des millions, je dis bien des millions de foyers dans ce pays.
Heureusement que des millions de Français ne prennent pas des pavés dans les fenêtres de leur domicile ou annexe. C'était le cas chez Éric Ciotti.
Vous m'avez interrogé.
C'est une autre question que je vous pose maintenant, monsieur
Martinez. D'accord, non, mais je.
Et sur le sur la façade,
de ne pas mélanger. Coupure.
Non, tout va bien, c'est très clair. Regardez, les images sont là.
C'est mieux quand tout va bien.
La motion ou le pavé, c'est le message qui a été inscrit sur la façade de la permanence d'Éric Ciotti à Nice. Vous en dites quoi de cette action-là ?
Non, c'est pas normal qu'on en arrive là. Enfin, c'est pas normal qu'on fasse ça.
Et attendez, juste quelque chose que je comprends pas bien. Vous dites Bruno Retailleau, au fond, vous prenez ça un petit peu à la légère,
non,
à la rigolade,
non,
vous
non,
faites
non,
une
non.
blague. Et Éric Ciotti, vous dites c'est pas bien.
Vous voyez,
est-ce qu'il y a pas non mais attendez, juste je termine ma question.
Non,
est-ce qu'il y a pas
aussi,
un continuum entre le fait de mettre la pression, de couper l'électricité chez un élu à la veille d'un vote, et le bout de cette violence qui consiste à caillasser une permanence. Il y a aucun lien entre les deux.
C'est pour ça que j'ai bien précisé quand vous m'avez posé la question, ce sont deux choses différentes. Vous m'avez dit c'est une autre question. C'est une autre question.
Donc il n'y a aucun lien entre
c'est clair,
les deux.
C'est une autre question.
Mais donc entre couper l'électricité chez un sénateur ou chez un élu, aucun problème.
Aucun problème.
Voilà, mais c'est clair.
Il y a le parallèle avec 2006, Benjamin.
Oui, on entend beaucoup cette idée que vous essayeriez de reproduire ce qui s'est passé avec le CPE, le contrat première embauche, c'est-à-dire une loi qui avait été votée, promulguée, mais pas adoptée compte tenu de la mobilisation. Simplement, la différence avec 2006, c'est que la jeunesse était massivement dans la rue à l'époque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que ce parallèle vaut vraiment cette tentative d'essayer de reproduire ce qui s'est passé en 2006 ?
C'est pas une comparaison. C'est rappeler un fait historique. C'est que à tous ceux qui disent mais une fois que la loi est votée, on peut plus rien faire. On fait juste un parallèle historique et vous l'avez rappelé que il arrive que des lois soient votées, promulguées et que quelques jours après, un gouvernement ne mettent pas en application une loi. C'est juste un rappel historique. Parce qu'il y a aussi cette petite musique qui vient de la part du gouvernement qui dit une fois que c'est voté, c'est fini, tout le monde rentre à la maison et plus rien ne se passe.
Ça, vous n'y croyez pas ?
On rappelle un fait historique que vous avez rappelé vous-même. Mmh. Et il peut y avoir aussi, avant, moi je crois qu'on peut encore, que le gouvernement doit retirer cette loi, et puis il y a d'autres moyens. Il y a la mobilisation parce que c'est ça le plus important, les grèves. Et à côté des choses, puisqu'on parle beaucoup de respect des institutions et de la Constitution, ben il y a le Conseil constitutionnel. Il y a les organisations syndicales. Il y a une semaine avaient demandé que le peuple puisse être consulté. Je crois qu'il y a
une
procédure de RIP qui est engagée. Mais ça, c'est
référendum d'initiative populaire.
Exactement, partagé, je crois.
Partagé.
Mais c'est à l'initiative des parlementaires. C'est-à-dire qu'on a donné le relais aux parlementaires pour qu'ils puissent user aussi de ce fait pour consulter le peuple. C'est bien que le peuple soit consulté quand on est dans une telle situation.
Et si les parlementaires de gauche justement arrivent à déposer ce RIP, est-ce que la CGT aidera à recueillir les signatures nécessaires ensuite, puisque la procédure veut qu'une fois que les parlementaires l'ont déposé, il faut les signatures d'un dixième des électeurs.
Il faut d'abord que le Conseil constitutionnel valide, parce que c'est un projet de loi, le RIP. Donc il faut d'abord que ce soit validé.
Et ensuite,
il y a une procédure.
Citoyenne, et est-ce que la CGT aidera ? Et
évidemment, enfin, on n'aidera pas.
À récolter les signatures ?
On n'aidera pas, on fera en sorte que le peuple puisse être consulté. Donc, puisqu'on a demandé, on va évidemment faire en sorte qu'il y ait un dixième du corps électoral qui puisse...
Et comment, concrètement ? Une campagne
Alors, c'est une procédure un peu plus compliquée qu'une signature en ligne
de pétition.
C'est organisé par le ministère de l'Intérieur. Déjà, il faut... Et puis, il faut présenter sa carte d'identité, enfin, sa carte d'électeur, etc. C'est un peu plus compliqué, mais oui, on va aider.
Alors, je voudrais revenir à la mobilisation. La prochaine grande journée intersyndicale, c'est donc jeudi prochain, le 23 mars. Est-ce que ce sera le point culminant de ces deux mois de combat ?
Ça dépend. Si jeudi, après les mobilisations, le gouvernement dit « j'ai compris, on arrête tout », nous, on veut toujours que la prochaine soit la dernière.
C'est pas le scénario le plus probable.
Je sais que vous êtes quelqu'un qui voyait l'avenir avec certitude.
Moins que vous, sans doute.
Non, plus que moi. Nous, on pense que les mobilisations, les grèves, et d'ailleurs, on a appelé dès jeudi soir, au soir du refus de consulter l'Assemblée nationale, on a dit qu'il faut que les grèves se multiplient et qu'il y ait de plus en plus de reconductibles, et c'est ce qui commence à se faire, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'à l'inverse, si jeudi prochain, il y a moins de monde que vous l'espérez, si la mobilisation est moins importante, ne sera pas un coup porté à cette mobilisation ?
Il y aura du monde jeudi prochain, j'en suis certain.
Sur les certitudes que vous avez, le 7 mars, vous promettiez collectivement l'intersyndicale de mettre la France à l'arrêt. Ce n'est pas ce qu'on a vu concrètement dans les faits.
Vous regrettez ?
Ah non, moi je regrette, je vous pose des questions. Est-ce que cette fois, c'est un espoir que vous fondez de mettre la France à l'arrêt ?
La France à l'arrêt,
l'économie à genoux, c'est parfois aussi ce qu'on
entend. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit.
Vous, mais d'autres à la CGT.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. On a, de façon intersyndicale, trouvé une formule symbolique, c'était la France à l'arrêt. Et ben, il n'y a jamais eu autant de manifestants, je crois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de grèves. Après, nous, les syndicats, on est conscients et lucides sur ce que vivent les citoyens et les citoyennes de ce pays. Oui, il y a des problèmes
Vous prenez cette formule, essayez de mettre la France à l'arrêt jeudi prochain.
Non, c'est pas ce qu'on a écrit. D'accord. Il faut du monde. Mais on est conscients aussi que les problèmes de pouvoir d'achat, c'est présent. Moi, je vois de plus en plus de gens qui me disent « Excuse-moi, mais j'en ai fait une sur trois, parce que je peux pas. » C'est ce qu'on entend. Vous qui avez été dans les cortèges, c'est ce qu'on entend. Et en même temps, vous voyez, hier, une dame de 82 ans, qui n'est pas syndiquée, qui m'a dit « j'ai 82 ans, c'est la première fois que je manifeste ». C'est ça la réalité de ce mouvement social.
Vous pensez que c'est le 49-3 va vous aider à remobiliser ?
Pas nous aider. Il a généré beaucoup de colère, c'est ce qu'on voit. Parce que les personnes qui ont bien compris qu'on va les obliger à travailler 2 ans de plus disent « ce n'est pas possible ». Qu'on nous contraigne, c'est un passage en force, à travailler 2 ans de plus. Il y a un problème. Enfin, je crois qu'on est.
Ça peut avoir un impact sur la mobilisation.
Mais ça, là déjà, ce qui se passe depuis jeudi,
Jeudi, je veux dire.
Non, mais ça l'a déjà un impact. Les gens sont en colère.
Mais ça veut dire qu'il va y avoir des mobilisations, comme on le voit depuis jeudi jusqu'à jeudi. En gros, il y a une semaine de mobilisation.
Mais il y a des initiatives tous les jours. Tous les jours.
Donc il va continuer d'en avoir
C'est ce qu'a demandé l'intersyndicale, tous les jours.
Et vous demandez à ce que cela s'amplifie, est-ce que vous demandez aussi à ce qu'au fond, ça se durcisse ? Vous dites qu'il faut durcir jusqu'à jeudi, il faut amplifier.
Je crois que la CGT l'a dit depuis un petit moment maintenant. Plus de grèves reconductibles. Après, entre le fait qu'on le demande et le fait que ça se fasse, des fois c'est un peu plus compliqué. Mais notre position, elle est claire et depuis le début d'ailleurs. Vous nous l'avez souvent opposé entre ce que pouvait dire Laurent Berger et la CGT et Philippe Martinez sur les modalités d'action. Et on assume ça très bien.
Il y a un rendez-vous là, à partir de demain, pour beaucoup de jeunes. Ce sont les premières épreuves du MAC. Beaucoup craignent qu'elles ne soient perturbées. Est-ce que vous demandez clairement à ce que les épreuves du bac ne soient pas perturbées et que les lycéens puissent passer cet examen?
Les épreuves du bac, c'est quelque chose d'important, même si ça a changé et le bac ne se passe plus comme de mon temps, pour passer pour un vieux. Il faut que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Après, là aussi, quand on sème la colère... on se retrouve devant des situations. Oui, j'ai entendu.
Pardon, Monsieur Martinez, mais le message n'est pas clair en fait. Vous dites une chose et en même temps un peu l'inverse. Vous souhaitez que les lycéens puissent aller tranquillement ces 3 premiers jours passer les épreuves ?
Moi, je dis une chose. Je pense qu'il faut que les épreuves du bac se passent le mieux possible. Donc, et après, je constate autre chose. Oui, je fais bien la part.
Le mieux possible, c'est pas très clair. Vous pourriez dire, je ne souhaite pas qu'il y ait perturbation, ou vous pourriez dire, je souhaite que chacun fasse ce qu'il souhaite.
Quand il y a une telle colère, je peux souhaiter ce que je veux, et vous aussi. La colère, elle est là.
Mais sauf que ne renvoyez pas, syndicaliste.
Ne renvoyez pas la responsabilité de ce qui se passe et de la colère, qui a augmenté d'un cran, c'est le moins qu'on puisse dire, à ceux qui subissent une réforme et qui demandent depuis plus de deux mois.
C'est pas du tout ce que je fais, monsieur Martinez. Non, je suis désolé, je ne vous renvoie pas la responsabilité de la colère.
De la CGT. Ouais. Ne renvoyez pas la responsabilité, ou alors que le gouvernement, c'est plus précis comme ça, ne renvoie pas la responsabilité de cette colère qui monte.
En l'occurrence, la CGT Éducation est plutôt du côté de celles et ceux qui considèrent qu'effectivement, les grèves qui pourraient, comment dire, perturber ces épreuves anticipées sont plutôt légitimes.
Quand il y a de la colère, oui, il y a qu'une seule solution, c'est la grève.
Et voilà. Donc, colère légitime, mais il faut pas trop perturber. Donc, bon, voilà, ceux qui nous regardent comprendront ce qu'ils veulent comprendre.
Je vois pas où vous voulez en venir. Voilà, il faut que ça se passe le mieux possible. Mais la colère, elle est là, et on ne peut pas faire, parce que depuis le début, parce que c'est toujours comme ça quand il y a des grèves. C'est vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais les pauvres Français, j'entends même prise d'otages, les pauvres petits enfants qui pendant les vacances peuvent pas aller voir leurs grands-parents. C'est à chaque fois c'est comme ça.
Non, mais on a y avoir un choix de plutôt c'est se, pas faire, vous, se mobiliser sur l'industrie plutôt que d'aller pénaliser les lycéens en l'espèce. Mais c'est plutôt l'idée de la question que j'ai posée, la mienne.
S'il y a des grèves dans les transports, ça sera pas bien parce qu'ils seront pénalisés parce qu'ils pourront pas y aller.
Ils peuvent arriver en retard. Ils ont une heure pour arriver.
Oui, puis quand il n'y a pas du tout, ils peuvent arriver deux ans. Non, mais voilà, à chaque fois qu'il y a grève, je vais vous le répéter une énième fois, à chaque fois qu'il y a des grèves, il y a des perturbations. Et c'est toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne dit pas au gouvernement, arrêtez, retirez votre projet? Et là, je vous assure, il n'y aura plus aucune perturbation, ni dans les transports, ni dans le pétrole, ni pour le bac. Il ne faut pas se tromper de responsable. La responsabilité, c'est le président de la République et le gouvernement.
Donc on entend bien votre message, M. Martinez, pour le bac, c'est le mieux possible. Voilà. C'était que les lycéens puissent le mieux passer les
points. Mais quand les enseignants ne veulent pas travailler deux ans de plus, le personnel dans les lycées, dans les écoles, ils ne veulent pas travailler deux ans de plus.
Alors justement,
tous les métiers dits de deuxième ligne qu'on a applaudis, qui ont continué à travailler pendant la Covid. Je pense aux éboueurs, par exemple.
On va y revenir dans un instant.
Mais c'est encore important, un sujet. C'est important.
Eux, ils ont travaillé pendant la Covid, pendant que
tout le monde était à la maison. Mmh. Eux, ils ont continué à faire leur boulot. Et aujourd'hui, on les montre du doigt parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils refusent de travailler deux ans de plus.
Monsieur Martinez,
mais
encore
si on y revient, j'en reparlerai encore plus.
On va en reparler.
Merci.
Un sujet à propos de la jeunesse encore. Tout à l'heure, Benjamin parlait de 2006. En fait, à chaque fois que la jeunesse a rejoint un mouvement social, enfin, souvent c'est elle qui a fait basculer les choses. Est-ce que vous espérez qu'à partir de jeudi, donc au lendemain des épreuves du bac, les lycéens rejoignent le mouvement? Est-ce que vous espérez plus massivement? Est-ce que vous espérez que les étudiants, de façon plus massive, rejoignent?
Oui, oui, il faut que, d'ailleurs, l'intersyndicale, c'est aussi des organisations de jeunesse, lycéennes et étudiantes, il faut que la jeunesse, parce que c'est leur avenir qui est en jeu, et donc il faut qu'ils se mobilise plus massivement.
Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne à ce niveau-là?
Il faut, parce qu'on a continué à parler avec eux, à discuter avec eux. Il y en a de plus en plus dans les cortèges. Pas assez, mais il y en a de plus en plus. Les jeunes pensent que la retraite, c'est pour dans très longtemps. C'est vrai qu'effectivement, quand on a 20 ans, la retraite, on a autre chose à voir avant. Mais en discutant, en montrant ce qui risque de leur arriver, eh bien, ça bouge. Et il y a des jeunes qui sont de plus en plus mobilisés.
Nous allons revenir dans un instant en direct, Monsieur Martinez. Ce sera question des éboueurs, justement.
Merci.
Et comme d'habitude, à 12h30, je vous montrerai trois photos d'actualité. Vous pourrez en choisir deux, suite de BFM Politique dans quelques secondes. BFM Politique avec Philippe Martinez qui est notre invité aujourd'hui. Monsieur Martinez, je vous montre trois photos, vous allez pouvoir en choisir deux. Il y a une question derrière chacune d'entre elles. Vous allez voir apparaître Vladimir Poutine, le sigle de Renault et Olivier Dussopt.
Commencez par Renault parce que les deux autres, c'est plus compliqué.
La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous attendiez des nouvelles de Renault, qui est votre employeur, chez qui vous devez retourner bientôt, hein, maintenant, début avril. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez eu des infos?
Oui, j'ai été reçu et je retourne dans mon établissement le 3 avril. Je sais pas à quelle heure, mais le 3 avril.
Vous allez faire quoi concrètement?
Ça me regarde maintenant, c'est ma vie privée.
Donc vous serez membre de la CGT de cette usine-là?
Je le suis déjà. Ouais. Non, mais Vous savez, quand on est adhérent de la CGT, on est adhérent à un syndicat. Et en général, c'est le syndicat de sa boîte.
Vous ne serez pas délégué syndical, Renault ?
Ah non, non, non. Non, non. Je serai adhérent.
Et salarié.
Voilà.
Et combien de temps vous allez continuer ?
On verra.
Dans un bureau ou à l'usine ?
C'est ma vie privée. Le 3 avril, je...
Donc on viendra vous voir pour vous poser les questions et pour...
Ben, je ne vous répondrai pas.
Ils sont inquiets, Renault, de vous récupérer ou pas ?
Ils sont ravis.
Il nous reste deux photos, Monsieur Martinez, Vladimir Poutine et Olivier Dussopt.
Monsieur Dussopt.
On va l'écouter, c'était sur BFM TV, le ministre du Travail, invité dimanche dernier.
C'est une page de l'histoire syndicale, effectivement.
Vous voulez mettre un petit SMS ?
C'est un personnage, j'espère pouvoir le croiser avant son départ pour lui souhaiter une bonne suite dans sa carrière ou dans son engagement.
Il espère pouvoir vous croiser. Non, mais vous aussi.
Ça me fait mourir de rire, quoi.
Pourquoi ?
C'est du style, mais la porte est toujours ouverte. Non, mais faut. Il avait l'occasion depuis. Il a l'occasion depuis très longtemps de nous croiser. Enfin, de croiser la CGT. C'est ce qu'on demandait d'ailleurs. On l'a même demandé au président de la République. Ça, c'est des mots pour faire semblant.
Il n'était pas sur une dimension plus personnelle, vous pensez ?
On a des relations entre un responsable syndical et un ministre, c'est pas.
Et c'était
tout.
Quand la dernière fois que vous êtes parlé d'ailleurs ?
Je risque de me tromper, mais je crois que c'était le 4 janvier dans le bureau de Madame Borne.
Et rien depuis ?
Rien.
Pas un coup de fil.
Ah si, je crois que je l'ai croisé ici. Je parle sous le contrôle de Benjamin Duhamel qui me surveille tout le temps. on a dû se croiser à la sortie d'un studio. On s'est dit bonjour ou bonsoir peut-être. C'est ça.
Bonsoir, sans doute.
Ouais. Philippe Martinez, reprenons nos échanges. Donc, la contestation se poursuit contre la réforme des retraites. À Paris, les poubelles s'amoncellent sur les trottoirs. Est-ce que vous demandez aux éboueurs de continuer le mouvement ?
Plus que jamais. Plus que jamais. Aux éboueurs et aux autres. Hein. Mais puisqu'on parle des éboueurs, oui, plus que jamais. Je pense que c'est... Leur mouvement, c'est symbolique de tous ces salariés, hommes, femmes, de deuxième ligne... Les invisibles qu'on a salués durant la Covid, à qui on a dit il faut qu'ils aient plus de visibilité, un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail. Rien n'a changé. Et vous pouvez discuter avec des assistantes maternelles, par exemple, des infirmières, des aides-soignantes, qui, elles, pour elles, rien n'a changé. Et les éboueurs, c'est caractéristique de ce monde du travail qui est invisible. Vous voyez, eux, ils passent, j'écoutais un syndiqué de la CGT, de Éboueur, qui disait, est-ce que vous pensez qu'à 64 ans, ou même à 60 ans, je vais être encore au cul du camion, c'était
alors,
son expression.
Pour les fonctionnaires Éboueurs, ils peuvent aujourd'hui partir à 57, et avec la réforme, c'est 59 ans, donc pas 64 ans.
Je vous ai dit à 60 ou à 60.
Oui.
D'accord ? D'accord ?
Non, mais c'est juste pour...
Oui, c'est juste pour, mais...
Ah non, c'est juste pour être c'est précis. C'est oui. Important d'être précis.
Et ils passent donc 35 ans. On parle d'insalubrité. Eux, c'est tous les jours, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, qu'ils sont dans des conditions insalubres. Est-ce que, une fois seulement, on peut se mettre à la place de gens qui travaillent et qui vous expliquent leur travail ? Voilà. Ils ont même proposé, d'ailleurs, je crois, mes petits camarades, que je ne sais pas qui conduira le camion, mais que... Olivier Dussopt conduise le camion et que Bruno Le Maire et Darmanin soient derrière, Reaper. Les Reaper, c'est ceux qui prennent les poubelles. Voilà, qu'ils fassent ça un mois, eux,
mais juste,
pour
monsieur...
voir si c'est convenable, si c'est important, ou on peut comprendre que ces gens-là, ces travailleurs et travailleuses-là, disent « Non, c'est bon, quoi. »
Monsieur Martinez, ça veut dire que les risques sanitaires, les désagréments pour vous, c'est pas un sujet.
Et personne ne s'occupe de l'insalubrité, des risques sanitaires pour ceux qui font ça pendant 30 ans, 35 ans. Voilà. Est-ce qu'on se pose cette question-là quand on dit qu'est-ce que c'est que travailler deux ans de plus ? Vous voyez, c'est ça, avoir les pieds sur terre. Oui, il y a des problèmes, mais eux, c'est tous les jours, pendant 35 ans, qui jouent avec leur santé. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place une fois ?
Il va y avoir des réquisitions. La liste des agents grévistes a été envoyée à la préfecture de police de Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Les réquisitions, c'est une remise en cause du droit de grève.
Vous espérez pouvoir les contourner ?
Comme on l'a fait, parce que c'est pas nouveau. Hein, les réquisitions, il y en a eu au mois d'octobre contre les personnels des raffineries. À chaque fois, on conteste. chaque fois on conteste justement devant les tribunaux.
Oui, Monsieur Martinez, donc dans les raffineries, les grèves repartent de plus belle. Olivier Matteux de la CGT des Bouches-du-Rhône a conseillé, je cite, d'aller faire des pleins d'essence car il n'y aura bientôt plus beaucoup. Fin de citation. Est-ce que ça veut dire qu'à la CGT, on souhaite qu'il y ait des pénuries d'essence dans les stations-service?
Quand il y a, je veux bien vous le répéter en français, en espagnol, si vous voulez.
Essayez
quand,
pour voir.
Quand il y a des grèves, cuando hay huelgas, no hay trabajo.
Oui. Quand il y a des grèves, il n'y a plus de travail.
Merci. Et donc, quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de production, et donc il y a des pénuries. Voilà. C'est quand les éboueurs sont en grève, eh ben, il y a des poubelles sur les trottoirs.
Oui, mais dans cette phrase, d'Olivier Matteux, il y a un côté un peu de bravage de.
Il n'y a plus de train.
Dépêchez-vous, et au fond, comme s'il fallait à tout prix qu'il y ait un maximum de. Je vais reprendre l'expression de Laurent Berger, d'emmerdement pour les citoyens pour que cette grève soit visible.
Je vous dis ce que dit Philippe Martinez. Quand il y a des grèves, il y a plus de production, et quand il y a plus de production, ça génère des problèmes. On l'a évoqué pour plein de sujets, et c'est partout. Quand il y a des grèves chez Airbus, il y a plus d'avions qui sortent. Voilà. Quand il y a des grèves dans l'automobile, il y a plus de voitures qui sortent. La CGT l'a toujours dit depuis le début. C'est une nécessité.
Voilà.
Je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'entends dans les manifestations. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être entendu par le président de la République? Eh ben, on en est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous mettez souvent en avant le fait que chacun doit se concentrer sur ce qu'il fait, ses faire et reste dans son terrain de compétences. Or, vous étiez devant l'Assemblée nationale jeudi, alors pas à l'intérieur, hein, mais vous étiez devant pour faire pression. Est-ce que c'est 100% démocratique, ça, d'être là, de faire pression sur les parlementaires?
Quand 8 responsables syndicaux, parce que c'était ça, on était 13 d'ailleurs, parce qu'il y avait les jeunes, viennent devant l'Assemblée nationale faire une conférence de presse, lire un texte pour dire aux députés, est-ce que vous allez écouter le peuple? Vous pouvez considérer que c'est faire pression. Moi, je considère que c'est un message, c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité.
Vous n'êtes pas mis à la Concorde ou encore ça aurait été prêt, vous n'êtes pas mis à Place de la Nation.
C'était où se passait le vote par le...
Donc c'était pas pour faire pression là.
Mais c'est où se passait, où devait se passer le vote sur cette réforme, pas aux Invalides.
Faire pression, Monsieur Martinez.
Mais non, c'était pour. Ah, oui, vous pouvez considérer que c'est. Moi, je considère que c'est pas pour faire pression. C'est normal que les organisations syndicales, dans un pays démocratique où la démocratie sociale devrait exister un peu mieux qu'elle n'existe aujourd'hui, eh bien, s'adresse aux parlementaires. On a fait une conférence de presse. Si vous considérez que c'est faire pression, c'est un message solennel, une fois de plus. On ne peut pas dire aux organisations syndicales, vous n'êtes pas assez présents. Quand il y a un tel mouvement, c'est normal que les organisations syndicales soient les porte-parole, avec des guillemets, parce que ce côté délégataire...
Quand Jean-Luc Mélenchon parlait du mouvement social, sur ce même plateau, vous lui aviez dit, et ça avait été beaucoup commenté, mêlez-vous de ce qui vous regarde.
Mais on se mêle de ce qui nous regarde. La réforme des retraites, ça concerne qui? Ça concerne qui? Ça concerne les salariés, essentiellement. Même si, parce que les jeunes, ils vont devenir salariés. On s'occupe de quoi, les organisations syndicales? Pas des pêcheurs à la ligne, j'ai rien contre les pêcheurs à la ligne. On s'occupe bien du travail. Donc c'est normal que tout ce qui pèse sur le travail, les organisations syndicales s'en mêlent. Or, là, on a court-circuiter depuis longtemps les organisations syndicales. C'est les phrases, je pense qu'un certain nombre de ministres les ont prononcées. Le temps de l'année de la concertation est terminé, maintenant c'est le temps du débat parlementaire. Nous considérons que, vu les mobilisations et vu la colère qui existe, le mouvement social a encore son mot à dire.
Ce jeudi dont on parle, quand vous avez appris que le gouvernement Emmanuel Macron et Elisabeth Borne déclenchaient le 49-3, vous vous êtes dit quoi au fond de vous? C'est un coup de force ou c'est un aveu de faiblesse de leur part?
Les deux. C'est un aveu de faiblesse. Cette réforme, elle devait passer comme une lettre à la poste, comme on dit. Et il a fallu attendre. Alors, vous êtes certainement mieux informé que moi.
Mais enfin, dernière minute. Hein,
exactement.
Ça s'est décidé à
14. Il y a eu, je ne sais pas combien de réunions, d'aller-retour, Matignon, l'Élysée. C'est un aveu de faiblesse. Évidemment. Puis, face à cette faiblesse, il y a un coup de force qui consiste à dire, on passera cette réforme coûte que coûte. Quoi qu'il arrive.
Il y a deux motions de censure qui ont été déposées dans la foulée de cette utilisation du 49-3, dont une qui est transpartisane. Est-ce que vous la soutenez symboliquement? Parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas voter, mais vous la soutenez.
Non, je reprends ce que vous m'avez dit. Ça, c'est l'affaire de parlementaires. on n'a pas à soutenir une motion de censure. Mais je pense, par contre, que c'est l'occasion pour les parlementaires de voter pour ou contre la réforme, ce qu'ils n'ont pas pu faire jeudi dernier. Ça, je pense que oui, c'est l'occasion de dire je suis pour ou je suis contre la réforme.
Donc, si on est cohérent, à partir du moment où vous appeliez les parlementaires à voter contre la réforme des retraites, si vous dites là, c'est l'occasion de voter, vous les appelez à voter en faveur de cette motion de censure.
Je leur dis, c'est l'occasion de vous prononcer sur quelque chose que le gouvernement et surtout le président de la République ne vous a pas permis de faire jeudi dernier.
Et donc de renverser le gouvernement.
N'interprétez pas mes pensées parce que vous
le faites là pour le coup.
Vous le faites trop souvent. Je vous permets pas de dire que je suis hypocrite.
Non, pas vous, mais la phrase.
Il est subtil.
Pardonnez-moi, Monsieur Martinez, là où Benjamin a raison, c'est que c'est factuel. La motion est votée, le gouvernement sera renversé.
C'est la Constitution. C'est la Constitution. Enfin, moi, j'y suis pour rien. Hein.
Demain va au-delà de.
Mais pourquoi il n'y a pas eu de vote jeudi?
Pourquoi il n'y a pas eu de vote? Le gouvernement l'a expliqué parce qu'il n'avait pas la majorité de.
Donc, je vous dis.
Demain, le vote, il comporte un autre enjeu qui va au-delà de la réforme des retraites.
C'est le gouvernement qui s'est mis dans cette situation. Je vous dis que demain, c'est l'occasion de pratiquer le vote que le gouvernement, par peur, par faiblesse, n'a pas voulu pratiquer jeudi dernier.
C'est un message que vous passez aussi aux députés Les Républicains, puisque justement ce vote n'a pas eu lieu parce que le gouvernement n'avait pas la majorité, parce que trop de députés LR s'apprêtaient à voter contre. Est-ce que vous avez un message pour eux aujourd'hui?
Je n'ai pas de message.
Vous d'aller au bout de vos convictions
J'ai pas de message ni subliminal ni direct à leur faire passer. Je vous dis, voilà ce qu'on pense, c'est l'occasion de pratiquer le vote que vous n'avez pas pu pratiquer sur une question. Pas renverser le gouvernement, c'est la Constitution qui prévoit ça, de voter ce que vous n'avez pas pu faire jeudi dernier. Parce que comment ça va être interprété de l'autre côté, si vous permettez, le vote n'a pas été en défaveur du gouvernement, donc ça légitime ma loi. Voilà, c'est tout.
Factuellement, si les motions de censure sont rejetées, le texte est adopté.
On est donc d'accord. Donc, si on veut
vous reconnaîtrez la légitimité démocratique du fait que ce texte est adopté si les motions sont rejetées.
C'est pas une question de légitimité démocratique, c'est la Constitution. Est-ce qu'on continuera, parce que c'est ça qu'il y a derrière votre question, à contester cette loi? Oui, la réponse est oui. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une journée de mobilisation jeudi. Et cette mobilisation, elle a été décidée en toute connaissance de cause, y compris avec ces histoires de motions de censure, même si les motions de censure n'étaient pas déposées.
Est-ce que vous pensez que l'ampleur de la mobilisation pourrait être la même si la motion de censure est rejetée et que, par conséquent, le texte est adopté?
Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec le feu, sans mauvais jeu de mots. Il faut arrêter de jouer avec le feu. La colère, elle est là. L'opposition, elle est là. Pas que dans la rue. On a eu souvent l'occasion, vous, pas vous personnellement, de me poser la question, vous ne craignez pas que l'opinion publique, etc. L'opinion publique, elle est toujours très, très majoritairement contre cette réforme. La cote du président de la République, avec l'effet 49-3, je crois que vous avez donné les sondages, elle est au plus bas. C'est ça la réalité. Pourquoi s'obstiner?
Vous irez à l'Assemblée, devant l'Assemblée, du coup, lundi?
Non, c'est pas prévu.
Pourquoi c'était prévu du coup jeudi dernier et pas ce lundi?
Donc je vous réexplique. Je vous réexplique. Jeudi devait y avoir un vote.
Ouais.
Devait y avoir un vote pour ou contre cette réforme. Ce vote.
Vous venez d'expliquer à l'instant que les députés allaient voter pour ou contre cette réforme de la même manière. Il n'est pas question. Benjamin Duhamel, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas de renverser ou pas le gouvernement. Il s'agit de voter pour ou contre la réforme. Vous venez de le dire.
Oui.
Donc, de la même manière.
Mais évidemment, parce que vous connaissez comme moi la Constitution, le 49-3 et les motions de censure, certains l'interprètent autrement. Je pense que. Et là, je ne vais pas citer nom, mais il y a des motions de censure qui sont... j'ai entendu des députés, des présidentes de groupes qui, eux, leur seul objectif, c'est de faire tomber le gouvernement.
Oui. Comme ça n'est pas le vote, c'est le sens de ma question.
Donc c'est pour ça que...
Donc vous n'y serez pas lundi.
Voilà, exactement.
Si cette motion est rejetée lundi, est-ce qu'Elisabeth Borne peut quand même rester à Matignon ou est-ce qu'elle doit partir selon vous?
Je n'en sais rien, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, j'en sais rien. Enfin,
c'est tenable, cette situation?
Bah, c'est, posez-leur la question. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un changement radical, je vous le dis, de conception de la démocratie dans ce pays. Il faut arrêter avec les petites phrases, c'est pas la rue qui gouverne, il y a le temps enfin, les grandes philosophes sur la concertation, tous les syndicats disent, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de concertation, on ne nous a pas écoutés.
Et donc à minima, son départ de Matignon, est-ce que ce serait une première victoire pour vous, pour le mouvement social?
Pour mettre qui à la place et pourquoi faire. C'est pas une affaire de personne, c'est une conception de la démocratie. Et je pense qu'il y a un vrai problème de prise en compte de la démocratie sociale.
C'est tout le débat.
C'est tout le débat que nous avons depuis un petit moment. Est-ce que parce qu'on est élu un jour, on fait ce que on veut pendant 5 ans? C'est ça. Est-ce que on doit pas écouter le peuple? Enfin, ce sont des élus du peuple et le gouvernement est le reflet aussi. Certes, d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, mais aussi l'émanation des citoyens. On ne peut pas gouverner contre l'avis de son peuple. Et il faut une vraie réflexion, et plus que ça, des actes qui prennent en compte mieux, notamment la démocratie sociale.
Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, on l'a déjà vu rapidement tout à l'heure, il estime ce matin dans la presse que la confiance n'est pas rompue avec les syndicats. Il dit tout de même qu'il y aura un avant, un après. Et il ajoute qu'il y aura d'autres sujets sur lesquels vous pourrez avancer. Alors, je dis vous, vous ne serez plus vous directement aux commandes à partir de début avril, mais il fait allusion au partage de la valeur, à la gouvernance de l'assurance chômage, à la loi travail, etc., etc. Ça veut dire que vous pourrez déjà, enfin la CGT, les autres syndicats, vous envisagez déjà de vous asseoir à nouveau à la table du ministre du Travail dans les semaines et les mois qui viennent?
Pour l'instant, c'est compliqué, parce que faire référence à l'assurance chômage, tous les syndicats étaient contre. Faire référence à la réforme des retraites, tous les syndicats étaient contre. Faire la potiche dans une pseudo-négociation, ça va pas pouvoir durer.
Mais est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait un projet de loi sur le travail et sur les conditions de travail sans que les syndicats et sans que la CGT soit autour de la table?
Ça dépend. Pourquoi faire?
Est-ce que vous pourrez assumer de ne pas participer à ces
discussions? Ça fait 10 ans que la CGT, dit il faut se poser autour d'une table pour parler du travail.
Et justement, là, ce serait une occasion, vous n'y croyez pas?
Pour parler du travail. Mais nous, on veut bien construire l'ordre du jour. Pas qu'on nous impose un ordre du jour. Ça veut dire quoi, parler du travail? Ça veut dire il faut travailler 2 ans de plus? Ça veut dire vous n'êtes pas si mal payé que ça? Ça veut dire que les chômeurs, c'est de leur faute? Parlons du travail. Pourquoi de plus en plus de personnes vont au travail à reculons? Pourquoi, quand il y a des plans de départ volontaire, on parle beaucoup d'emploi des seniors, les gens en profitent pour quitter leur boîte? Je vous précise qu'en plein moment où on discutait d'un CDI senior et de l'emploi des seniors, Orange vire 700 personnes de plus de 50 ans. Et Orange, vous le savez, il y a une part publique, donc il y a des personnalités émanant du gouvernement qui siègent. 700 personnes virées, vous voyez, au moment où on parle de l'emploi des seniors. Si c'est pour faire potiche à une table de négociation, ça va être compliqué d'y aller.
Monsieur Martinez, donc il y a un congrès à venir à la CGT, du 27 au 31 mars, pour déterminer qui va vous succéder.
Pas que.
Entre autres. Le JDD consacre ce matin un article à votre succession, vous l'avez sans doute lu, et selon le journal, ça se passe mal. Il y aurait des courriers anonymes, des tensions, des caricatures. Les fédérations toutes puissantes chez elles, je cite, ne supporteraient pas votre autoritarisme. Ça se passe mal à la CGT?
Non, ça se passe pas mal.
Vous niez des tensions?
Ah, il y a des débats, je ne le nie pas. Il y a des débats. C'est pour ça que c'est pas un problème de succession, c'est un problème d'orientation. Est-ce que la CGT va continuer à s'ouvrir vers le monde du travail tel qu'il est? C'est un vrai sujet.
Mais là, pardonnez-moi, regardez la phrase d'un des dirigeants de votre fédération, on est au-delà du débat. Avec une ambiance de caniveau, c'est du jamais vu, on risque la scission, l'explosion, la désertion en masse.
Si vous permettez, la CGT, prétend pas la connaître sur le bout des doigts, mais enfin mieux que les journalistes du JDD.
C'est un dirigeant de la CGT.
J'adore quand c'est
anonyme.
J'adore ça. Moi, quand vous m'interrogez, c'est Philippe Martinez, c'est pas un dirigeant de la CGT. Donc voilà, le sujet, c'est quel avenir pour la CGT depuis que je suis en responsabilité, mais d'autres l'ont fait avant moi. J'ai pas tout bouleversé. Voilà, la question, c'est est-ce que la CGT, elle prend le monde du travail tel qu'il est? On n'accepte pas les évolutions de la précarité, mais il faut s'occuper de ces personnes qui sont en précarité. Est-ce que la CGT, elle s'occupe d'environnement? Où on dit, les questions environnementales, c'est des questions sociétales, ça n'a rien à voir avec le social. Nous pensons que ça a à voir. Est-ce que le féminisme, c'est des questions sociétales ou c'est des questions sociales. Le fait que les femmes soient moins payées que les hommes, ce sont des questions sociales. Est-ce que la CGT, elle doit, à chaque fois qu'elle le peut, faire l'unité syndicale? La période que nous vivons montre que à chaque fois que les syndicats sont ensemble, il y a du monde dans
justement,
les rues. C'est ça le débat
Martinez,
de la CGT.
Je sais que vous repoussez systématiquement les questions liées à votre personne. Malgré tout, il s'agit de vous, personnellement, qui êtes à la table de négociation avec Laurent Berger, avec d'autres responsables syndicaux. Le fait que vous partiez dans une semaine, ça ne va rien changer, selon vous, aux discussions, à ce mouvement social que vous accompagnez depuis deux mois?
La CGT, c'est des syndiqués, c'est des collectifs. Et heureusement, d'ailleurs, c'est pour ça que les questions d'autoritarisme me font toujours rire. Je suis pas président de la République. Vous voyez la différence entre un secrétaire général de la CGT et un président de la République? Je ne gouverne pas tout seul, entre guillemets. Il y a des collectifs, il y a des discussions.
Et c'est bien vous qui êtes aux réunions. C'est bien vous qui avez porté cette voix-là.
Pas toujours. Moi, je suis le porte-parole. C'est pour ça que vous m'invitez, d'ailleurs.
Et vous espérez que ce soit Marie Buisson qui, dans la suite des réunions, prenne votre place, si le mouvement continue.
Je pense, je suis certain, que Marie Buisson, elle incarne le mieux cette CGT qui doit évoluer parce qu'elle a validé. D'autres pensent qu'il faut que la CGT revienne 30 ans ou 40 ans en arrière. C'est ça un débat d'orientation. C'est pas un débat de chef.
Ça va vous manquer?
De quoi?
Porter la voix de la CGT?
Je la porterai à mon niveau, dans mon syndicat, par exemple, dans mon établissement.
À partir de début avril,
chez Renault.
À partir du 3 avril, très exactement.
Et c'était aujourd'hui donc votre dernière émission sur BFM TV. Alors merci beaucoup Monsieur Martinez d'avoir accepté notre invitation. Je comptais pas le faire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne, vous qui nous regardez, rendez-vous lundi. Donc cette journée sera très importante, journée spéciale sur l'antenne de BFM TV avec les équipes de la chaîne mobilisées comme à chaque journée partout sur le terrain, partout dans le pays pour raconter ce qui s'y passe et à l'Assemblée nationale au moment du vote de ces motions de censure avec Amandine Atalaya et Damien Gourlet. Et puis soirée spéciale dès 20h30 Aurélie Casse, Maxime Switek pour revenir sur cette journée, cette colère qui monte dans le pays. Merci Benjamin, merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Philippe Martinez.
Merci à vous.
Bonne route.
Merci.
Et à bientôt. Au revoir, voici Philippe Godin, Dominique Rizet. C'est Affaire suivante, à tout à l'heure 18h.